et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous. Petit rappel, pendant l'été 2012, les djihadistes du groupe en Sardine détruisaient à coups de pioche 14 mausolées de saints musulmans à Tombouctou, c'est au Mali. Les djihadistes contrôlaient alors le nord du pays au nom de la lutte contre l'idolâtrie. Lundi 22 août, s'est ouvert le procès d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, Touareg, membre d'en Sardine et accusé d'avoir commandité la destruction des lieux saints, voire d'y avoir participé. Alors aujourd'hui, dans le dialogue des religions ce soir, nous vous posons la question, qu'en pensez-vous? Pour en parler avec nous, Sam Shirfou, conservateur du mausolée Alpha Moya, l'un des mausolées qui a été détruit. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et dans quelques minutes, vraisemblablement, nous serons rejoints par Serge Mvé, qui est spécial que vous commencez à bien connaître, qui intervient régulièrement dans le dialogue des religions. Serge Mvé est spécialiste des comportements religieux. Alors, je vous propose d'aller du côté de Facebook, où vous réagissez nombreux, le sujet vous touche, bien évidemment. Alors voilà ce que vous nous dites sur Facebook. Diallo Tierno, Omar Diallo, nous dit « Je suis très content de voir que ce criminel nommé Al-Mahdi dit et devant la cour de la CPI, il doit être poursuivi encore pour les crimes qu'il a commis contre les hommes et les femmes de la grande ville sacrée de Tombouctou qui ont été agressés, tués, les boutiques et les magasins saccagés, vandalisés par ces hommes. Il mérite la prison à vie. Al-Mahdi, tes excuses ne sont pas les bienvenues chez moi, on ne te pardonnera jamais. Mes arrière-grands-parents sont venus de Tombouctou pour s'installer ici en République de Guinée. Je suis Tombouctou. Vous êtes nombreux comme ça avoir réagi, mais j'ai vraiment envie de me tourner tout d'abord vers vous, Monsieur Shirfou. Alors, je le disais en préambule, vous êtes le conservateur de d'un mausolée, le mausolée d'Alpha Moya. Où étiez-vous quand les destructions ont commencé?
J'étais à Tombouctou, sur place.
Oui. Et vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez? Est-ce que vous en avez été témoin immédiatement ou ce sont des gens qui sont venus vous rapporter que un drame était en train d'arriver?
Justement, on m'a informé qu'une dame était en train de se passer et je suis parti sur les lieux.
D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vu?
J'ai vu des hommes en train de détruire les mausolées, mais qui tenaient les gens à une distance respectable parce qu'il y avait des hommes armés tout autour pour assurer la sécurité.
Et l'un des mausolées, sur les 14 mausolées qui ont été détruits, si je compte bien, celui d'Alpha Moya, dont vous êtes le conservateur, a été détruit également?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous vous souvenez?
Bon, j'ai ressenti de la frustration et surtout l'impuissance de ne pouvoir pas faire quelque chose.
Est-ce que vous avez essayé de parler au...
Oui. Voilà, oui.
Je vous en prie.
Je n'ai jamais pensé qu'un jour, quelqu'un allait s'en prendre à ces mausolées.
Est-ce que vous avez essayé de parler aux gens qui étaient en train de détruire les mausolées?
Ah non, je n'ai pas senti de parler parce qu'ils étaient vraiment.
Ah, on découvre.
Il y avait un appareil dissuasif. Il y avait des hommes armés tout long.
Oui, et donc vous étiez choqué, vous étiez en colère, vous. Ça vous a mis dans quel état?
En colère, j'étais vraiment indigné.
Oui.
Et surtout peiné de ne pouvoir.
Et impuissant. Agir. Impuissant, et donc c'est ça, quand on est impuissant face à un drame qui se déroule, ça ne fait que décupler la colère, j'imagine. Pour ceux qui nous écoutent, Monsieur Shirfou, et qui ne connaissent pas cette culture et qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un mausolée et pourquoi ils sont si importants pour les croyants?
Bon, un mausolée, en fait, c'est une maisonnette avec porte et fenêtre dans laquelle se trouve la tombe d'un saint.
Oui.
Bon, un saint, c'est généralement un personnage très important sur le plan religieux, un savant, un connaisseur, et qu'on ne vénère pas, mais qui est important aux yeux de la religion parce qu'il représente un symbole fort.
Donc, ce ne sont pas seulement des bâtiments qui ont été détruits, mais des tombes qui ont été profanées d'une certaine manière.
Les tombes n'ont pas été profanées. Ils sont contentés de détruire les bâtiments. Mais en dehors des mausolées, ils ont profané certains tombes, effectivement.
Oui.
Au niveau des cimetières. Parce que chaque. Les saints se trouvent généralement dans des cimetières qui portent le nom, quoi.
Et on dit de Tombouctou que c'est la ville aux 333 saints.
On dit que c'est la ville des 333 saints. Parce qu'il y en a beaucoup, mais 333, c'est sûr un chiffre symbolique.
Bien sûr.
Parce que, voilà, c'est ça, sur le plan ésotérique.
Et alors, vous qui êtes conservateur, quel était votre rôle dans ce mausolée, pour le mausolée dont vous étiez responsable et qui n'est plus pour le moment?
Bon, le rôle, en fait, c'est d'entretenir, et surtout pas directement, parce que je peux désigner quelqu'un qui est plus disponible au sein de la famille, mm-hmm. pour ouvrir la porte du mausolée les lundis, jeudi et vendredi, qui sont les jours les plus d'affluence.
Oui.
Et procéder aussi à l'entretien. Et au niveau du mausolée, au niveau de la tombe du saint à l'intérieur du mausolée, il y a un dispositif. Un dispositif qui signale la tombe, un rideau, un lit, etc.
Uh-huh.
Et surtout des choses, pour des instruments pour balayer, un équipement pour balayer, nettoyer, mettre de l'encens.
Alors revenons sur la fonction du mausolée. Vous disiez que les gens n'adoraient pas les saints, mais quand même, si j'ai bien compris, on les invoque traditionnellement, et c'est le cas depuis très longtemps.
Oui, oui, effectivement.
On vient leur demander leur aide.
C'est-à-dire que généralement, quand il y a pénurie de, une pénurie de pluie,
oui.
ou bien quand il y a des épidémies,
mm-hmm.
ou bien toute autre calamité, on invoque Dieu à travers les saints. C'est-à-dire que c'est très important. On n'invoque pas directement le saint. Le saint n'a pas de pouvoir, mais le saint a il peut avoir une intercession auprès de Dieu. Que Dieu dit dans le Coran qu'il y a lui, Dieu, ensuite les prophètes, les anges et les savants, et ses amis à lui. Donc il y a divers degrés d'intervention.
Très bien. Très bien. Donc les saints, on a bien compris qu'il ne s'agit pas de les adorer, mais comme en fait dans la religion catholique, on passe par l'intercession, on s'appuie sur eux pour avoir une oreille favorable auprès de l'instance divine. Du côté du standard, vous voulez évidemment participer. C'est le cas de Tierno Diallo. Bonsoir.
Ouais.
Allô.
Allô. Oui, bonsoir.
Bonsoir Tierno.
Oui, Oui, bonsoir, la Vera, bonsoir à tous.
Alors, dites-nous.
Je disais tout à l'heure, je suis très content de voir ce monsieur, le curmier, monsieur Alma Hadji,
oui.
la cour de la CPI, un des terroristes les plus influents au moment de l'agression au nord du Mali. L'homme qui a piloté la destruction de nos mausolées. Étant un originaire de Tombouctou, je suis très heureux de voir ce monsieur devant ce cours. Il y a eu encore des victimes, à part des mausolées qui ont été détruits. Il y a eu des boutiques, des magasins, des innocents victimes qui ont été assassinés. Vraiment, je suis pour cette justice, que toute justice soit faite pour que M. Mahadi soit condamné. Même hier, je voyais des informations en disant qu'il risque de peine de, je ne sais pas, sur 9 ans et 10 ans. Non! Le crime qu'il a commis, ça mérite prison à vie.
Ah, il risque jusqu'à 30 ans, hein, de toute manière.
En s'attaquant au mausolée de Tombouctou, là, il a voulu effacer l'histoire de toute une nation. Pourquoi pas de toute l'humanité? Étant, vous savez, Tombouctou a été le lieu sacré, plupart de l'Africain du Sahara, ont passé par Tombouctou, sont installés dans les différents pays. Y compris la Guinée, le Sénégal, le Gambie, etc. Ça, c'est condamnable ce qu'il a fait. Nous ne pouvons pas le pardonner. Il doit être tout simplement condamné à la hauteur des forfaitures de la crime qu'il a commis là-bas.
Et donc, vous réclamez pour lui la peine la plus sévère. Merci beaucoup, Tierno Diallo. On a bien entendu votre indignation.
Okay, merci.
Bonne soirée.
Merci.
Et restez à notre écoute. Faites comme Tierno Diallo, hein, n'hésitez pas à nous appeler et nous donner votre avis. Nous ferons un plaisir de le partager. C'est le cas d'ailleurs, là, tout de suite au standard, de Christian Djerabé. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors dites-nous, Christian.
Oui, par rapport au juridique de ce pays contre ces terroristes, je salue vraiment cette décision. Ils méritent la peine de prison à vie.
Ah, vous pensez comme Thierno Diallo alors?
Oui, exactement. Il a détruit l'histoire d'une nation. Est-ce que la religion musulmane demande à ce qu'on détruise ou bien une nation?
Alors, Christian, on va devoir s'arrêter là parce que vraiment la qualité du son n'est pas bonne, mais on a bien entendu que vous appelez vous aussi à la plus grande sévérité face à Monsieur Al-Mahdi, mais aussi vous posez la question du sens de l'action. Et là, je me tourne vers notre intervenant, Monsieur Cherfou. Vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là.
Alors, la question que pose Christian est fondamentale. Ce sont des musulmans qui ont attaqué d'autres musulmans. Et Christian Djerabé demandait, est-ce que dans le Coran, est-ce que dans l'islam, on a le droit d'agir de cette manière-là?
Ah, absolument pas.
Et pourtant, ce qui a justifié l'action de ce Touareg et du groupe en sardine avec lui, c'était les accusations d'idolâtrie. Il considérait que l'existence de ces mausolées, la manière dont les habitants de Tombouctou venaient visiter les tombes, était de l'idolâtrie et donc contraire aux principes de l'islam.
Bon, en fait, c'est un point de vue, parce qu'en fait, ce qu'ils engagent même, qu'ils appellent la jihad.
Oui.
Dans le Coran, il est dit que la jihad n'existe plus. Il est dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Donc un musulman n'a même pas le droit d'attaquer quelqu'un d'autre parce qu'il a une autre religion. À plus fortement, attaquer un autre musulman. Donc c'est simplement une question d'interprétation, une vue de l'esprit.
Et c'est une vue de l'esprit qui aura coûté cher.
Oui.
Vous écoutez le dialogue des religions sur la voix de l'Amérique, c'est VOA Afrique que vous écoutez. Nous avons encore un petit quart d'heure ensemble. Vous pouvez nous appeler, hein, il est encore temps, 001-202-619-3140, 001-202-619-3140, comme l'a fait Bakary Keïta. Bonsoir Bakary.
Bonsoir.
Nous vous écoutons Bakary.
Ok, d'accord. Moi, je crois, je ne vois pas la chose sous le même angle que mes prédécesseurs.
Ah, mais c'est intéressant, c'est à ça que sert cette émission.
À mon avis, il faut avouer être à moitié pardonné.
Mm-hmm.
Mais à mon avis, Al-Fadi n'était pas totalement libre lors de la prise des décisions, des positions surtout, parce que l'épaule de Damoclès était suspendue sur lui face aux pressions quand même des djihadistes. Donc, il n'était pas libre vraiment de tous ces mouvements. Donc l'innocence doit être quand même tolérée, à mon avis, quoi.
Bah, je pense quand même que le mot innocence va assez mal avec ce monsieur. Même si j'entends votre volonté de clémence, on peut difficilement accoler le mot innocence avec son attitude. Vous trouvez pas?
Bon, oui, ça c'est clair, mais quand même c'était le débat, moi je trouve qu'il n'était pas quand même... Il y avait la pression quand même des...
Mmh. Il n'avait pas son libre arbitre pour vous.
Voilà, c'est clair. Donc, il n'était pas quand même libre arbitre. Donc, il y avait quand même des pressions sur lui. Il y avait le chef arbitre, quoi. Il était le chef arbitre, à mon avis. Donc, à mon avis, sinon, les mausolées, quand même, c'est un lieu vraiment qui représente beaucoup vraiment pour nous, les musulmans. Parce que c'est un lieu qui représente aussi les personnages, les docteurs, vraiment les juridiques. Donc, mérite ample respect.
Mmh.
C'est un lieu aussi où les gens vont prier et demander pardon par la grâce de Dieu. Donc, tout ce que Al-Fadi a fait, quand on regarde sous un autre angle, il est difficile quand même de lui pardonner. Comme il a avoué publiquement vraiment son tort, là, il n'a pas fait son mea culpa, à mon avis. Quand même, on doit quand même être un peu clément avec lui, même si quand même c'est dur.
Bon, on va demander à notre invité, merci Bakary de nous avoir donné votre opinion et restez à l'écoute hein, du dialogue des religions. Monsieur Cherfou, est-ce que vous êtes d'accord avec Bakary Keïta qui invoque une possibilité de clémence, qui en tout cas comprendrait qu'on fasse preuve d'une certaine clémence face à monsieur Al-Mahdi, parce qu'il a reconnu son forfait?
Bon, en fait, c'est un point de vue.
Quel est le vôtre d'ailleurs?
L'islam même recommande le pardon.
Oui.
Mais je ne crois pas que ce soit dans ce cas de figure. Parce qu'un acte qui est dirigé contre moi, je peux pardonner. Contre ma famille, je peux pardonner. Mais un acte qui est dirigé contre une communauté, il appartient à la communauté de pardonner.
Mmh.
Et dans ce cas précis, les musulmans n'appartiennent pas aux Tomoktchins, ça appartient à l'humanité. Et est-ce que Tomoktchou peut représenter l'humanité? C'est le patron mondial de l'humanité.
D'accord. Donc pour vous, ils ne s'est pas seulement attaqué finalement aux musulmans. Ils ne se sont pas attaqués seulement aux musulmans. Ils se sont attaqués à un patrimoine qui appartient au reste de l'humanité.
Voilà, ça dépasse le cadre religieux. C'est un symbole fort. Alors, la demande de pardon n'efface pas, comment dirais-je, l'acte qui a été posé là de façon délibérée. Et justement, à l'occasion de ce procès, les gens dont sont en train de se rappeler ce qui s'était passé, la violence, non seulement morale, mais aussi physique,
oui,
qu'ils ont subi.
Mmh. Et alors, du coup, vous rejoignez un peu ce que dit notre auditeur Tougma Flavien. En tout cas, je vais vous poser la question qu'il pose. Et il nous dit, sur Facebook, il nous a laissé ce message, Tougma Flavien. Le problème, c'est que la plupart de ceux qui se disent islamistes sont des ignorants. Tout bon musulman connaît la valeur de Tombouctou. C'est parce que les Arabes ne veulent pas le reconnaître. Sinon, Tombouctou est comme une ville sainte. Est-ce que cette attaque de Tombouctou par un sardine, c'est une guerre intestine entre musulmans arabes et musulmans africains, selon vous, M. Cherfou?
Bon, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je pense que simplement, Tombouctou représente une valeur au sein du monde musulman.
Oui.
Et pour faire justement mal à ce monde musulman, il faut, comment dirais-je, s'attaquer à Tombouctou. Parce que Tombouctou représente quand même un islam tolérant. Et
oui,
je vais vous dire que quand il y a eu les événements le 11 septembre, le président allemand a choisi Tombouctou. Il est venu à Tombouctou pour prouver à ses électeurs musulmans qu'il y a un autre visage de l'islam. Parce que Tombouctou, c'est une ville où il y avait une synagogue du Père Mardouchi. Il y avait aussi l'église Notre-Dame de Tombouctou, en plein cœur de Tombouctou. Donc, Tombouctou représente un islam tolérant, un islam qui va justement à l'encontre de ces nouvelles idéologies.
Très bien. Comment
c'est pour ça que...
Oui, je vous en prie, je vous laisse terminer.
Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne pense pas que ce soit un problème entre choses pour faire mal aux gens. Non, je crois que c'est simplement un symbole de l'islam tout court.
Qui a été attaqué. Alors vous disiez très justement un symbole de l'islam et aussi un symbole de l'humanité au 001-202-619-3140. Un nouvel auditeur souhaite intervenir, il s'appelle John Trésor. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Alors dites-nous John Trésor.
Oui. Parce que moi je trouve que c'est un patrimoine mondial.
Oui, vous allez dans le sens de Monsieur Cherfou.
Oui, n'importe qui pourrait aller là-bas. Concernant l'humanité, concernant même l'islam, selon moi, ils méritent plus qu'une sanction. Parce que, à leur temps, ils ont pratiqué la charia.
Oui.
Tué beaucoup de personnes.
Ils ne se sont pas contentés de s'attaquer aux monuments, c'est ce que nous disait M. Cherfou à l'instant, oui.
Oui, oui. Donc, si on doit appliquer la charia sur lui,
bon, alors, John Trésor, est-ce qu'il faut appliquer la charia sur lui? Est-ce que vous pensez que c'est une solution?
Bon, ce n'est pas une solution, mais comme ça est dans la Cour pénale internationale, là, il faut appliquer la loi normale.
Très bien.
Voilà.
Très bien. Merci. Et bonne soirée à vous. On continue au standard de VOA Afrique. Et c'est Aboubakar qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette problématique de idolâtrie, manière de prier, manière de considérer l'islam, l'attaque de symboles à la fois, on le disait, de l'islam et de l'humanité d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Donc, à mon avis, ces terroristes-là, ce ne sont pas des musulmans, ils sont là pour garder le nom de l'islam.
Aboubakar, est-ce que vous pouvez éteindre votre radio, s'il vous plaît, parce qu'on a un écho qui est extrêmement désagréable quand on n'est pas vous.
Oui.
Vous l'avez arrêté?
Oui.
Formidable.
Oui,
alors dites-nous.
J'ai arrêté. Donc, tu as vu ces touristes-là, ils sont là pour garder le nom des musulmans, puis l'islam.
Mais ils se considèrent comme musulmans eux-mêmes.
Une religion. Oui, j'ai dit l'islam, c'est mon nom. Et les religions qui sont toujours grandes. Ça ne permet pas de faire n'importe quoi. Ils gardent le nom des musulmans.
Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il y a quand même un problème, Aboubakar, c'est que ces gens se réclament de l'islam. Et ils disent que les actions qu'ils posent, ils les posent au nom de l'islam.
Tu vois, non, ce ne sont pas des musulmans. Parce que l'islam n'a pas permis de parler, faire n'importe quoi, dire des gens ou même détruire les hommes.
Bon, alors la communication commence à être mauvaise. On a bien entendu votre message, Aboubakar. Ce ne sont pas des musulmans. Et si on devait appliquer la charia sur eux, ils ne seraient plus là. Mais bon, leur chance, entre guillemets, c'est que ça passera par la Cour pénale internationale. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous au 001-202-619-3140. Les appels se pressent. Nous sommes avec Aïssa Ndiaye. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, permettez-moi de marquer une pause et de vous féliciter. J'ai presque envie de faire des you-you. Vous êtes la première femme que je reçois et je suis ravie. Ça fait plaisir d'entendre que des femmes aussi appellent. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Je vous laisse nous dire ce que vous souhaitez partager avec nous.
En fait, je voulais dire qu'il se prend pour des musulmans et ils ne le sont pas.
Ah, d'accord. Vous allez dans le même sens qu'Aboubakar Diallo.
Oui. Dieu a envoyé plusieurs musulmans, plusieurs prophètes, et chacun envers sa population. Donc, il ne faut pas vivre pour Dieu, nous, on peut vivre pour nous-mêmes. Il y a le vivant dernier.
Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ne sont pas musulmans et qui voient ça? Parce que vous qui êtes musulmane, qui êtes de l'intérieur, vous pouvez les regarder et dire « ceux-là ne sont pas des nôtres ». Mais pour des gens qui ne le sont pas et qui entendent le mot « djihad » et qui entendent le mot « islam », pour eux, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Comment on explique aux gens que ben non, ce n'est pas la même chose?
C'est juste parce que l'islam ne rime pas avec la violence. L'islam, c'est une religion de paix.
Ben, ils n'en sont pas l'illustration. Hein. En tout cas, on a bien compris votre message. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Aïssa?
Je voulais juste dire à les personnes qui suivent là en ce moment qu'ils ne font pas attention à ces gens. Ils sont là toujours pour éteindre les feux.
Allô?
Oui, je vous entends.
Vous disiez qu'il ne faut pas faire attention à ces gens-là et qu'ils sont là tout juste pour...
Pour saluer l'islam, c'est ça.
Mmh. Très bien. Le message est passé.
Merci.
Merci beaucoup à vous, Aïssa. Et si vous êtes une femme, appelée, le numéro du standard est le même, que vous soyez un homme ou une femme, 001-202-619-3140. Et votre voix compte au moins autant que celle de ces messieurs. Monsieur Chiffour, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Chirfou, pardon, j'ai écorché votre nom. Est-ce que vous pensez comme nos deux... Chirfi, je vous prie de m'excuser.
Voilà, Chirfi, voilà.
Je vous prie de m'excuser. Est-ce que vous pensez comme nos deux auditeurs précédents que ces gens-là, en Sardine, et notamment ce monsieur qui est jugé en ce moment, Al-Mahdi, ne sont pas des musulmans?
Bon, moi, je ne peux pas aller jusqu'à dire que ce ne sont pas des musulmans. Parce que, en fait, l'islam interdit de traiter de non-musulman celui qui prononce simplement la shahada. Mais les actes qu'ils sont en train de poser vont à l'encontre de l'islam. Parce que quand on lit la vie du prophète, on voit comment il est tolérant. Il est rapporté qu'il y avait une mosquée qui était à côté d'un bar. Les gens ont détruit le bar. Mais quand le prophète est venu, il leur a dit, mais pourquoi? Il dit, non, il faut reconstruire le bar. Mais monsieur, ce n'est pas un musulman. Donc l'islam est tolérant. Et c'est dans le Coran qu'on dit, là, il n'y a pas de contact en religion.
Mais alors...
En tout cas, ces gens, les actes qu'ils posent
ne sont pas pour servir.
Mais alors, comment expliquez-vous cette dérive, alors, puisqu'ils ont été bercés et élevés, et particulièrement ce monsieur Al-Mahdi a été versé dans le Coran depuis tout petit. En plus, il est instruit, il a été directeur d'école. Comment expliquez-vous qu'un homme qui a été baigné dans la même culture coranique que vous, finalement, le transforme de cette manière?
Il y a certainement des intérêts cachés, parce que souvent, en plus, il peut y avoir une contrainte juridique, il peut y avoir aussi, comment dirais-je, la corruption. Ça, tout ça, ça peut se passer. Parce que si l'on prend le cas d'Al-Mahdi, vraiment, que ce soit, parce que certains disent qu'est-ce qu'il est sincère, moi je le crois. Parce que vraiment, c'est la première fois qu'on voit un djihadiste, ou prétendu-t-il, dire qu'il regrette.
C'est la première fois qu'un accusé de crime contre l'humanité reconnaît les faits et regrette,
Voilà. Et comment dirais-je, lancer un appel pour dire aux autres, vraiment, ces gens, il ne faut pas les écouter. Ils m'ont eu à un certain moment, ils m'ont contraint, etc. Je regrette tout ce que j'ai fait. Donc, ça prouve quand même qu'il y a, comment dirais-je, cette volonté-là.
Donc, vous lui pardonnez d'une certaine manière?
En tant qu'individu. En tant qu'individu, moi, je pense qu'il est sincère. Oui.
Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur Sam Shirfi, n'est-ce pas? Je rappelle que vous êtes conservateur du mausolée Alpha Moya, l'un des mausolées qui a été détruit en 2012 en Sardine, et notamment ce monsieur qui est jugé en ce moment. Bonne soirée à tous qui nous avez suivis. Cette émission a été rendue possible grâce à Haider à Outkou et Joselle Morissin. Restez à l'écoute des programmes de VOA.